expérimentation d'internat éducatif pendant ses vacances scolaires. Le Premier ministre visitera le lycée du Parc Impérial. L'établissement pilote de l'expérimentation doit accueillir des jeunes avant qu'ils ne tombent dans la délinquance. Gabriel Attal entend proposer aux parents que leurs enfants soient envoyés en internat loin de leur quartier. Pour le chef du gouvernement, ces internats éducatifs redonneront aux jeunes en difficulté l'opportunité d'apprendre, de retrouver un cadre et de conserver ses chances de réussite. Cette annonce fait suite au décès d'un adolescent aussi de 15 ans passé à tabac à Viry-Châtillon début avril. Récemment, plusieurs faits divers aussi à l'issue parfois dramatique qui impliquait de jeunes mineurs. Et pour les éloigner de la délinquance, faut-il généraliser un couvre-feu pour les mineurs à partir de 23h dans les villes de France? C'est oui pour 67% des Français interrogés dans notre sondage CSA pour Europe 1, CNews et le JDD. Dans la marche contre le racisme et l'islamophobie, aujourd'hui à Paris, au moins 3000 personnes ont défilé dans l'après-midi entre Barbès et République. Défilé à l'appel d'une cinquantaine d'organisations d'extrême gauche notamment, qui se termine par un concert avec des rappeurs comme Kerry James, mais aussi Medine. Ce dernier est un artiste controversé puisqu'accusé d'antisémitisme. Un accident de manège mortel la nuit dernière, ça s'est passé dans une fête foraine à Blois. Éjecté d'une attraction peu après à 23h, une jeune femme de 27 ans n'a pas survécu à ses blessures. Une enquête judiciaire a été ouverte. La fête foraine installée au parc des expositions de Blois devait prendre fin ce soir en raison des circonstances. Elle n'a pas ouvert ses portes ce dimanche. Voilà 80 ans, jour pour jour, le droit de vote était accordé aux Françaises. C'était le 21 avril 1944, après plus de 150 ans de lutte féminine. Tout a démarré avec la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne rédigée en 1791 pour l'égalité des droits. Pour en savoir plus sur ces années de lutte, un dossier vous attend sur europe1.fr. En 1990, dans ses actions pour mettre fin à la répression du leader serbe Slobodan Milošević, l'OTAN larguait une bombe de 1000 kilos en Serbie, bombe qui n'a pas finalement explosé. Aujourd'hui, plus d'un millier de personnes a dû être évacuées de la ville de Niš, dans le sud-est de la Serbie, pour retirer l'explosif. La bombe doit être détruite en lieu sûr. Au Japon, un exercice militaire s'est terminé en accident mortel la nuit dernière. Deux hélicoptères des forces japonaises d'autodéfense se sont écrasés en mer. Un membre d'équipage a été retrouvé mort, sept autres sont portés disparus. Les sports, PSG Lyon ce soir en clôture de la 30e journée de Ligue 1 de football à partir de 21h. Toulouse-Marseille en ce moment et actuellement les Marseillais mènent 1-0 cet après-midi. Monaco, Metz, Montpellier et Lille se sont imposés. En rugby, plus qu'un seul match à jouer après les victoires hier de Castres, Racing 92, Perpignan, Stade Français, Pau, ultime rencontre de cette 21e journée avec Bordeaux-Bègles et Clermont tout à l'heure à 21h05. Les 24 heures du Mans Moto, victoire cette année de Suzuki et puis en Formule 1, le leader du championnat du monde, Max Verstappen, a remporté le Grand Prix de Chine. Le L'Irlandais a signé à Shanghai sa 4e victoire de la saison en 5 courses. Il en reste 19. Le prochain Grand Prix aura lieu à Miami le 5 mai.
Europe 1.
Europe 1, bientôt 20h03, le studio des légendes avec Jacques Vendroux.
Europe 1.
On est sur le toit du monde, on est sur le toit de l'Olympe.
20h, 21h.
Le studio des légendes.
C'est vrai que j'ai fait une ligne droite époustouflante.
C'est une histoire qui est en train de se raconter, elle n'est pas terminée.
Même si je suis un grand joueur de foot, enfin, comme les mômes me le disent, pour ça je suis fier, mais j'ai pas envie de moi de me le dire.
Jacques Vendroux.
Bonsoir, studio des légendes. Formidable ce soir sur Europe 1, c'est en direct, 20h, 21h, au programme, mesdames et messieurs, des festivités. Le cyclisme avec Liège, Bastogne-Liège, analyse des résultats du top 14, le Red Star qui monte en Ligue 2, ça c'est une très bonne nouvelle pour le foot français. Toujours en foot, Lyon bat le Paris Saint-Germain, demi-finale aller de la Ligue des champions féminines. Thématique toujours football avec le championnat PSG-Lyon, donc à 21h. Metz qui bat le Havre 1-0. Nantes qui gagne à Rennes sur le... Rennes qui gagne à Nantes, pardon, sur le score de 3-0. Monaco qui gagne à Brest 2-0. Et Lille qui bat le Racing Club de Strasbourg, eh bien, sur le score d'un but à 0. Et dans l'ordre d'apparition à l'antenne, Martin Lange, Serge Blanco, Pauline Gamère, Océane Daniel, Alain Giresse, Maxime Irignou, Guy Roux et pour terminer, Jean-Claude Perrin, le monsieur athlétisme d'Europe 1, en fin d'émission, sur le record du monde, amélioré du saut à la perche, Armand Duplantis, 6,24 m, c'était à Xiamen, en Chine. A tout de suite. Et on commence, mesdames et messieurs, par le rugby, le top 14, la 21e journée, analyse avec... Serge Blanco dans tous les résultats, bien sûr, de cette nouvelle soirée, la 21e. Bonsoir Serge. On n'a pas Serge, alors donc on va passer tout de suite avec Martin Lange. Martin Lange, on va parler de Liège-Bastogne-Liège.
Oui, exactement, Jacques. La doyenne des classiques qui avait lieu cet après-midi en Belgique avec la victoire de Tadej Pogacar. Tadej Pogacar qui a déjà gagné deux fois le Tour de France. On le connaît très bien. Eh bien, il a tout simplement écrasé cette doyenne cet après-midi en attaquant dans la côte de la Redoute. C'est la traditionnelle juge de paix de cette classique entre Liège, Bastogne et Liège. Et le Slovène a attaqué donc à 30 km de l'arrivée. Il a lâché tous ses concurrents pour s'imposer en solitaire sur les quais de la Meuse. On attendait beaucoup de son duel avec Mathieu Van Der Poel. Mathieu Van Der Poel qui avait été éblouissant depuis le début de cette campagne de classique en gagnant notamment le Tour des Flandres puis Paris-Roubaix. Mathieu Van Der Poel, il a été un petit peu en retrait aujourd'hui, mais il termine quand même troisième. C'est lui qui remporte le sprint débattu, troisième, parce que entre les deux géants, Tadej Pogacar et Mathieu Van Der Poel, il y a un Français qui s'est intercalé, Romain Bardet, exceptionnel.
Voilà une bonne nouvelle.
Excellente nouvelle. Alors, on n'a pas eu le droit à la Marseillaise, malheureusement, à Liège, mais Romain Bardet, qui avait déjà fini troisième de la doyenne, c'était en 2018, donc ça remonte, il y a 6 ans, et ben, il signe son meilleur résultat, deuxième, donc il était très ému à l'arrivée, Romain Bardet. On sait qu'il se pose des questions sur son avenir. Est-ce qu'il va continuer? Est-ce que ça sera sa dernière saison dans le peloton? En tout cas, cette victoire, elle lui montre qu'il a encore le niveau pour être compétitif sur des grandes épreuves, et ça annonce peut-être de belles choses, puisqu'il y a le Tour d'Italie qui arrive dans un mois et Romain Bardet sera au départ.
Est-ce qu'on peut parler pour commencer du Tour d'Italie?
Et il est en forme. On peut parler du Tour d'Italie. Donc il y aura Romain Bardet, il y aura surtout Tadej Pogacar qui a été, je vous l'ai dit, très très bon cet après-midi, qui est très très bon depuis le début de la saison. Je crois qu'il est à 10 jours de course, et sur ces 10 jours de course, il a gagné 6 fois la course. Donc vous voyez, il est à 60% de réussite. Donc ça sera l'immense favori sur le Tour d'Italie à la fin du mois de mai. Et derrière, pourquoi pas un podium pour Romain Bardet, qui rêve aussi d'une victoire d'étape sur le Tour d'Italie, lui qui a déjà gagné sur les deux autres grands tours, le Tour de France et le Tour d'Espagne. Donc ça serait une jolie façon de mettre fin à sa carrière que d'aller gagner une étape sur le Tour d'Italie pour Romain Bardet.
Alors Marc-Saint-Lange, l'inévitable question, qu'est-ce qu'on peut attendre pour le Tour de France? Moi je veux absolument savoir qui peut gagner, est-ce qu'un Français peut gagner? Allez, rassurez éventuellement les auditeurs d'Europe 1, qui sont, je vous le dis en passant, de plus en plus nombreux à nous écouter. Voilà, on le dit en passant. Voilà.
Sacrée question, Jacques. Le Tour de France, je pense qu'il va être très ouvert cette année. Pourquoi? Déjà parce que Tadej Pogacar, qui est très en forme, je vous le répète une fois de plus, va s'aligner sur le Giro.
Vous l'aimez bien. Hein,
il est très très fort, il faut le dire. Il va s'aligner sur le Giro à la fin du mois de mai et un mois plus tard sur le Tour de France. Le doublé Giro-Tour de France, il n'a pas été réalisé depuis Marco Pantani en 1999. 25 ans, donc c'est un défi monstrueux, à la mesure de Tadej Pogacar bien sûr, mais Tadej Pogacar il sera peut-être pas au top de sa forme pour arriver au départ du Tour de France, et les autres grands favoris, notamment Jonas Vingegaard, il vient tout juste de sortir de l'hôpital, vous savez, il est tombé une chute terrible sur le Tour du Pays Basque. Est-ce qu'il sera au niveau à Florence le 29 juin? Rien n'est moins sûr, donc Pogacar fatigué, Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard pas forcément à 100%, ça annonce selon moi un Tour de France ouvert, en tout cas plus ouvert que les dernières éditions, avec pourquoi pas des Français aux avant-postes. David Godu, qui avait fini quatrième il y a 2 ans. Alors, le pauvre, il a pas mal de malchance depuis le début de la saison. Il a encore crevé aujourd'hui alors qu'il était présent dans le groupe des poursuivants sur la route de Liège. Mais pourquoi pas un Français qui s'accroche aller le plus loin possible. Je ne vois pas un Français gagner le Tour de France cette année. Désolé, Jacques.
Ah bon?
Mais un Tour de France ouvert, moi j'y crois. Et peut-être moins écrasé que les dernières éditions, en tout cas.
Martin Lange, vous êtes formidable. Merci. Vous êtes monsieur cyclisme d'Europe 1, il est formidable. On commence par le rugby maintenant, avec une personnalité hors norme, notre consultant, c'est Serge Blanco. Bonsoir Serge, comment ça va?
Bonsoir Jacques, très bien, merci.
Vous allez bien, tout va bien? Quel temps il fait
tout
au Pays Basque? J'aime bien vous poser la question.
Magnifique.
D'accord.
Il fait très très beau.
D'accord.
Il fait un peu frais, mais il fait très beau.
Bon Serge, on va analyser les matchs de cette 21e journée du top 14. On va commencer par Castres qui bat La Rochelle. 25 à 24, ce petit point de différence, c'est terrible.
Ah, c'est un point qui vaut de l'or, mon cher Jacques, parce qu'on a une équipe de Castres qui a courbé les chines pendant toute la rencontre. Alors c'est vrai que le début de cette rencontre a été assez monotone, beaucoup de jeux au pied, beaucoup de fautes de mer. Et puis au fur et à mesure que le match a avancé, on a les deux équipes qui sont véritablement rentrées dans un combat. Les Rochelais ont eu l'air de retrouver certains allants et ont fait un petit trou vers la 60e minute. Mais après, cette équipe de Castres, telle qu'on la connaît, a été courageuse, s'est battue jusqu'à l'extrême, jusqu'au bout, et puis a marqué un essai libérateur parce que leur buteur, malheureusement, a connu beaucoup de mésaventures au pied. Et puis cette équipe de Castres a été bien payée, et pour moi, c'est tout à fait normal qu'elle gagne, d'un petit point, mais c'est vrai qu'on n'a pas retrouvé encore le La Rochelle des années précédentes.
Alors hier également, Perpignan a battu Lyon 51-20. Logique, rien à dire.
Oui, parce qu'on a une équipe de Perpignan qui est magnifiquement belle aujourd'hui. Elle est en train de faire une remontée exceptionnelle au niveau du classement. Mais si ce n'était que cela, on en serait très heureux. Mais c'est la façon dont elle joue qui est exceptionnelle, parce qu'on a cette équipe qui est en train de réciter un rugby, que ce soit chez elle ou à l'extérieur. Et on a cette équipe à l'inverse de Lyon qui est en train, déplacement après déplacement, et bien de sombrer. Donc il va falloir que les Lyonnais se méfient. De la relégation, hein, ils sont en mauvaise posture, mais en tout cas, eh bien, les Perpignanais commencent peut-être à regarder un peu vers le haut.
En tous les cas, on peut parler aussi du Racing 92 qui s'impose à Oyonnax 43-13. Votre avis, Serge?
Oui.
Quelle chance on a d'avoir Serge Blanco sur Europe 1. Quelle chance. Je crois qu'on s'en rend pas compte. Les auditeurs le savent, mais nous on s'en rend pas compte. Il a un commentaire. Il est resté 8 heures devant son poste de télévision pour nous faire plaisir. Serge, le Racing 92 qui gagne à Oyonnax 43-13.
Oui, malheureusement pour Oyonnax, avec un Racing mais qui a l'air de retrouver quelques couleurs. Alors c'est vrai qu'on avait un Racing emprunté il y a quelques semaines. Qui a eu des difficultés, bien sûr, en Coupe d'Europe. Et puis là, qui se retrouve totalement. Alors, Oyonnax, c'était une de ses dernières chances de pouvoir encore prétendre rester dans le top 14. Bon, mais le Racing a fait le travail, a fait le maximum, a bien joué, a bien déroulé et a maîtrisé le match de bout en bout.
Et le Stade français qui bat Bayonne 28-24. Alors, j'ai regardé le match, Serge. Match exceptionnel. La fin, quel suspense! 21 oui. points marqués en deuxième mi-temps pour le Stade français.
Oui.
J'ai adoré ce match.
Mais c'est tout à fait normal, mais vous avez, j'espère aussi, apprécié la première mi-temps de l'Aviron Bayonnais.
Bien sûr.
24-7.
Et oui.
Et tout le monde a commencé à se poser quelques questions. Et puis, je pense qu'ils ont dû prendre quelques remontrances au niveau de la mi-temps. Et puis on a eu ce Stade français qui s'est totalement libéré en deuxième mi-temps. L'équipe de l'Aviron Bayonnais qui a commencé à lâcher, à commettre beaucoup de fautes. Et puis on a vu les individualités et le collectif du Stade français mais qui ont pris le dessus avec cet essai à la dernière seconde alors que l'Aviron Bayonnais était en train de gérer le score et attendait la fin du match pour envoyer le ballon en touche. Ils se sont fait prendre. Le Stade français récupéré et puis on a vu une envolée quand même de 50 à 60 mètres qui a permis au Stade français de concrétiser et de gagner, de concrétiser un essai et de gagner ce match qui, à mon sens, aurait mérité peut-être un match nul.
En tous les cas, c'est vrai que cette équipe du Stade français, elle nous a vraiment impressionnés à l'occasion des dernières minutes, vous l'avez dit, face à l'Aviron. Bayonnais, on peut parler de Toulon-Toulouse. Toulon qui bat Toulouse d'un point, 20-19. Je suis étonné, je suis surpris.
Non, mais ah bon Jacques, avec ce qui s'est passé hier soir, non. Je pense que ça a été un match qui a permis aux Toulonnais de se retrouver humainement, solidairement. C'est une équipe qui a joué à 14, une très très grande partie de cette rencontre. Alors bien sûr, des Toulousains qui avaient fait un petit peu tourner. Alors il faut dire que malheureusement pour le Stade toulousain, Ramos a raté quelques coups de pied, ce qui ne lui arrive pratiquement jamais. Mais bon, l'entraîneur ne lui en voudra surtout pas avec le travail qu'il fait jusqu'à maintenant. Donc cette équipe de Toulon qui confirme sa dernière sortie à Bayonne où ils avaient gagné largement. Et bien c'est une équipe de Toulon qui se replace et je pense qu'il faudra compter sur elle pour les phases finales.
Et je suis très très inquiet, Serge, pour Montpellier. Voilà, Pau, qui a perdu, qui a gagné contre Montpellier 31-23. Montpellier est relégable en ce moment. Hein.
Barragiste.
Oui, barragiste. Oui, enfin, c'est embêtant quand même.
Non, mais ça peut arriver, on ne sait jamais. Mais c'est vrai que Montpellier est barragiste et se retrouve dans une position difficile, alors qu'ils avaient montré un visage différent avant la trêve européenne. Et c'est vrai que Béapo, on les a pas sentis concernés par ce match, avec une équipe paloise qui a développé son jeu. Et bien Montpellier n'a même pas ramené un seul petit point de bonus en défense. Bon, mais le prochain rendez-vous va être véritablement quelque chose de crucial pour Montpellier, puisqu'ils vont recevoir Perpignan.
Ah,
et
oui.
Que Perpignan se dit que peut-être qu'il irait bien faire une mauvaise surprise assez voisin à Montpellier.
Et on peut terminer, Serge, par le match de 21h05, qui est en direct sur Canal, Bordeaux-Bègles contre Clermont. Pas mal comme match.
Oui.
Le match a lieu au stade Jacques Chaban-Delmas, le 14 mai. Ce soir, et le 14 mai, il y a l'inauguration du stade Jacques Chaban-Delmas. Voilà.
Voilà.
Mais ça, vous le savez, vous serez présent. Vous serez présent.
Effectivement, mon cher Jacques. Il faut dire que Bordeaux-Bègles, a besoin de cette victoire ce soir contre les Clermontois. Des Clermontois qui, en Coupe d'Europe, se sont fait plaisir, mais on a une équipe de Bordeaux qui a besoin de remonter au niveau des classements. Aujourd'hui, ils sont 7e. S'ils ne prennent pas la victoire ce soir, s'ils ne prennent pas les 4 points de la victoire, ça sera difficile après de rentrer dans les 6. Moi, cette équipe a besoin absolument de gagner, et d'autant plus que Jalibert revient pour le bien de cette équipe et surtout pour le bien de l'attaque bordelaise. Moi, je pense que ce soir, les Bordelais vont gagner.
Merci Serge Blanco. À dimanche prochain,
merci
si vous êtes libre. Hein. Merci. Hein. Franchement,
oui,
vous êtes le... Moi, j'aime bien vous avoir le dimanche soir. Comme ça, vous restez 8h, 9h devant votre poste de télévision pendant tout le week-end pour les auditeurs d'Europe 1. Merci Serge Blanco.
Au revoir,
Je vous embrasse. Le studio des légendes en direct 20h-21h avec Martin Lange, Serge Blanco, Pauline Gamère dans quelques secondes, Océane Daniel, Alain Giresse, Guy Roux, Maxime Hérignou, Jean-Claude Perrin, réalisation Benoît Levionnois, collaboration Hugo Levé. À tout de suite. Et on a de plus en plus d'auditeurs, vous le savez ça.
Europe 1 matin, Dimitri Pavlenko.
Bon réveil avec Europe 1 au programme ce matin.
Bienvenue et bonjour Bruno Le Maire.
Bonjour Sonia Mabrouk.
Merci de votre présence.
Elle aurait dû fêter ses 14 ans. La petite Shannon, 13 ans, sera enterrée demain.
Shemseddine battue à mort pour avoir osé échanger des messages connotés sexuellement avec la sœur de deux des assassins présumés.
L'incapacité de l'État royal à tenir les comptes publics a entraîné en 1789 le plus grand cataclysme de l'histoire de France.
Souhaitez-vous un référendum sur la politique migratoire? Vous dites oui à 69%.
Tout le monde est content. Les Iraniens ont défié le petit Satan. Israël a démontré l'efficacité de son dôme de fer.
On en apprend des choses sur Europe 1. À demain matin, 7h-9h sur Europe 1.
Leclerc, bonjour.
Oui, bonjour. Je voulais vous remercier pour votre application Mon Leclerc.
C'est gentil, madame.
Ah bah oui, parce qu'entre les applis pour éclater du papier bulle virtuel, celle pour avoir une voix d'alien et celle pour caresser des chats, ah bah ça fait du bien, une appli qui sert enfin à quelque chose.
Toutes nos promos toute l'année, tous vos tickets Leclerc à portée de main et des bons de réduction personnalisés. L'appli Mon Leclerc, elle a tout pour défendre votre pouvoir d'achat. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Offre également consultable sur www.e.leclerc.
Europe 1.
On est sur le toit du monde, on est sur le toit de l'Olympe.
20h, 21h.
Le studio des légendes.
C'est vrai que j'ai fait une ligne droite époustouflante.
C'est une histoire qui est en train de se raconter, elle n'est pas terminée.
Même si je suis un grand joueur de foot, comme les mômes me le disent, pour ça je suis fier, mais j'ai pas envie de moi de me le dire.
Jacques Vendroux.
On va terminer cette chronique rugby avec le rugby féminin, le tournoi des 6 nations. Résultat de ce week-end, l'Angleterre a battu l'Irlande 88-10, l'Écosse a battu l'Italie 17-10 et la France a battu le Pays de Galles 40-0. France-Angleterre, ce sera le dernier match en tous les cas concernant l'équipe de France de rugby féminine. C'est à Bordeaux à 17h45. Eh bien, c'est le week-end prochain. En tous les cas, c'est un match passionnant entre ces deux grandes nations et le vainqueur a toutes les chances de remporter ce tournoi des 6 nations. Le football, maintenant, grande séquence football à partir de 20h19 avec cette formidable nouvelle. Le Red Star, club mythique de la Seine-Saint-Denis, retrouve la Ligue 2. C'est vraiment bien pour le foot francilien. C'est encore mieux pour le foot français. Et nous avons avec nous Pauline Gamère, qui est la directrice générale de ce club, de Saint-Ouen. Bonsoir, bonsoir.
Bonsoir Jacques.
Bonsoir Pauline. Tous. Vous êtes heureuse, hein? Contente, hein? Vous êtes en Ligue 2. C'est bien. Non mais c'est bien. C'est très bien pour le foot.
On a passé, merci Jacques, on a passé une magnifique soirée, un bon week-end et cela d'autant plus que au-delà de la montée, on en a vécu. Vous avez votre consultant Maxime Erignou qui en a vécu aussi. La grande différence de cette montée, c'est qu'on va retrouver la Ligue 2 au Stade Boer. Et la dernière fois, c'était 1998, donc le Red Star est retour, mais à Boer, et ça change tout.
Alors qu'est-ce qui s'est passé cette année? Parce que c'est vraiment une belle saison. Je ne vais pas dire qu'on était presque sûr que vous alliez monter, mais à mi-championnat, bon, vous faisiez partie des grands favoris, avec votre entraîneur, bien sûr, Habib Bey. Formidable.
Oui, je pense que vous connaissez le foot mieux que beaucoup, Jacques. Ouais,
faut pas exagérer. Il y en a qui connaissent mieux.
Il y a des choses qui comptent dans le football, c'est le temps, c'est la stabilité, et c'est un peu de moyens, forcément. Et c'est vrai que l'année dernière, le Red Star avait échoué au dernier match et avait raté la montée de si peu l'année dernière, mais ils n'ont pas tout révolutionné. Il y a eu cette stabilité, il y a eu Habib Bey, bien sûr, qui est resté avec tout son staff, avec beaucoup de joueurs. Et je pense qu'il ne voulait pas la rater deux fois.
Et pourtant, Pauline, il a été très sollicité, notamment par l'Olympique Lyonnais. J'ai appris ça récemment. Et il est resté. Il est resté, mais il est fidèle, Habib.
Le Red Star est le club formateur du football français pour ses joueurs et pour son staff, et d'une manière très large. Regardez, vous allez même recruter au Red Star, Jacques.
C'est vrai, parce que notre ami Maxime Erignou a longtemps travaillé au Red Star, et maintenant il est au Stade français. Et il est aussi consultant football, en règle générale, sur l'antenne d'Europe 1, dans le studio des Légendes. Quel est, je vous ai posé la question récemment, mais quel est l'état d'esprit, quel est l'esprit du Red Star, qui est un club historique, qui est un club qui a eu des situations très complexes, positives, négatives, mais qui est toujours là. Et ça, c'est important. Le fameux maillot vert, short vert ou blanc, maillot short bas vert, c'est mythique.
Oui, je pense que bon, on entend hein, souvent que les grands clubs ne meurent jamais. Les grands clubs, c'est quoi? Les grands clubs, c'est les clubs qui ont une identité, qui ont des supporters, qui ont une appartenance à un territoire. Et ça, quoi qu'il arrive, ça résiste toujours au temps. Ce Red Star, c'est un club résistant, c'est un club résilient aussi.
Et qui a eu une grande histoire pendant la guerre. Attention, faut pas l'oublier. Ils ont joué un rôle extrêmement important. Hein. Et certains communistes, entre guillemets, étaient cachés dans les sous-sols du Red Star pendant la guerre. Hein, faut pas l'oublier. Hein, non, c'est vrai.
Mais, et comme là, vous parlez de la Deuxième Guerre mondiale,
bien sûr.
Il y a beaucoup de joueurs du Red Star qui ont aussi défendu les couleurs de la France pendant la guerre. C'est encore autre chose pendant la Première Guerre mondiale. Ce club-là, en effet, il a ancré dans ses veines la volonté de résister et d'être toujours présent. Aujourd'hui, je pense que c'est une belle leçon d'histoire de ces clubs-là qui ont une identité, des photos en noir et blanc et une âme qui est très forte.
Merci Pauline. Merci Pauline Gamère d'avoir donné vos premières impressions, en tous les cas, après cette montée du Red Star. Je vais demander un petit mot à Maxime Erignou. Il vous écoute religieusement. Il est là ce soir pour analyser les résultats de la Ligue 1. Maxime, c'est une partie de votre histoire aussi, le Red Star.
Moi, j'y ai bossé de 2013 à 2017. Le club n'avait pas connu le monde professionnel depuis près de 20 ans, Pauline, si mes souvenirs sont bons. Et on avait vécu cette montée, donc à Boer, on a fini champion de national, c'était extraordinaire. Il y avait beaucoup d'attentes, mais la frustration, c'était de pas pouvoir jouer en Ligue 2 dans notre stade, au Stade Boer. Donc il y a eu un premier exil à Beauvais, et cet exil, on a fini à un point de la Ligue 1. On a failli connaître voilà encore une deuxième montée consécutive. Et la saison d'après, alors on a joué à Jean Bouin dans le stade dans lequel je travaille aujourd'hui, et on a connu la descente.
Voilà une belle histoire.
Exactement. Et là, voilà, je suis un peu jaloux parce que vous allez connaître la Ligue 2 à Boer, et ça va être magnifique.
Oui, Pauline.
Vous voyez, Jacques, et ça c'est le Red Star. Maxime, quand il parle du Red Star, il dit encore on, il dit encore nous. Et en fait, quand on est piqué au Red Star, on l'est piqué pour la vie.
À vie. Non, mais en tous les cas, c'est un club formidable. Moi, j'adore le Red Star, vraiment.
Mon grand-père amenait mon père à l'âge de 10 ans jouer au Red Star. Moi, c'est une histoire de famille, le Red Star. Et forcément, c'est pour ça que j'irai toujours.
Mon père, on va parler encore de l'histoire de famille. Mon père a joué au Red Star. Mais il y a très très longtemps, mon père, quand on est arrivé à Paris, il m'a toujours élevé avec le Red Star, toujours. Il y a des clubs, il m'a amené à Metz, il m'a amené à Lens, et il m'a amené au Red Star.
C'est une histoire de famille.
Il adorait m'emmener dans le stade Bollaert, où il y a eu des joueurs. Bollaert, le stade Boer, le stade Boer, non, Lens c'est le stade Bollaert, et le Red Star c'est le stade Boer, pardon, autant pour moi. Donc, merci Pauline, à bientôt.
Merci Pauline.
Vous êtes les bienvenus en tout cas.
Merci.
Merci, et quand vous voulez.
Voilà, donc on va en profiter pour donner les résultats du national. Versailles s'est imposé à Épinal 1-0. Martigues et Cholet, 2-2. Orléans a été battu par Nîmes. Ah, ça va un peu mieux du côté de Nîmes Olympique, 1-0. Là encore, un club que j'aime bien. Avranches a battu Châteauroux, 1-0. Châteauroux, c'est le club de Michel Denisot. L'AS Nancy-Lorraine s'est imposé à Rouen sur le score de 3-2. C'est important pour Nancy. Villefranche et Le Mans font match nul 1-1. Le Red Star a été battu par Dijon 2-0, mais ça n'a pas de conséquence sur la montée en Ligue 2. Je rappelle que Lyon, c'est le deuxième club de Lyon qui joue en national, s'appelle le Gaul FC, mais c'est un club de la banlieue lyonnaise. Lyon et Marignane, et bien Lyon a battu Marignane sur le score de 3-0. Et le match Sochaux-Lyon aura lieu et bien demain à 21h. Le foot féminin maintenant, la demi-finale de la Ligue des Champions. Lyon bat le Paris Saint-Germain. Match aller 3-2. Océane Daniel, consultante d'Europe 1, ancienne joueuse de la Fiorentina, du Paris Saint-Germain, de Bordeaux, de Rodez. Votre analyse sur cette première demi-finale. Avant la deuxième demi-finale, qui aura lieu dimanche prochain au Parc à 16h.
À 16h, voilà. Exactement. Oui, c'était un très bon match de Ligue des Champions entre les deux meilleures équipes féminines. Le PSG arrive à marquer à deux reprises juste avant la mi-temps et au retour des vestiaires. Grâce notamment à Marie-Antoinette Katoto, qui est sur son 7e but en 8 matchs de Ligue des Champions cette année, qui revient d'une grosse blessure, rupture des ligaments croisés, donc c'est une très très grande joueuse. Donc le PSG avait le match entre les mains, mais c'était sans compter sur Lyon, avec ses joueuses cadres comme Wendy Renard, Delphine Cascarino.
Renard, elle était extraordinaire, hein. Fabuleuse, hein.
Elle répond toujours présente dans les grands rendez-vous.
Consultante d'Europe 1 pendant la Coupe du Monde au Qatar. Faut pas l'oublier. On l'embrasse.
Donc oui, forcément, elles ont l'habitude de ces grands rendez-vous. En seulement 6 minutes, elles ont renversé totalement le match en mettant 3 buts. D'abord avec Kadidiatou Diani qui finit ce but magnifique. Ensuite, le but de Melchie Dumornay. Pleine lucarne, elle nettoie totalement la lucarne, on revient à 2-2.
Elle nettoie la lucarne,
c'est un terme
que je ne connaissais pas. Elle nettoie la lucarne, d'accord.
Elle nettoie la lucarne.
Mais ça, c'est des expressions de jeunes, ça. Je peux rien y faire. Elle nettoie la lucarne.
Ouais, elle enlève l'araignée.
Elle enlève la toile d'araignée, exactement.
Voilà. Là-dessus, je peux rien faire.
Et sans compter sur Amel Majeré aussi, qui venait de rentrer en jeu et qui met le troisième but, le but de la victoire pour Lyon. Et aussi, on peut aussi noter la très bonne ambiance au Groupama Stadium. 38 000 personnes, c'est un record pour le football féminin. On espère avoir autant de monde au Parc des Princes dimanche prochain à 16h. Et encore, tout est encore possible pour ces deux équipes.
C'est possible encore pour le Paris Saint-Germain, même s'il a été battu 3-2.
Oui, ils ont juste...
C'est jouable.
C'est jouable, un match, de toute façon, tout se joue sur un match là. Le PSG sera à domicile, ils ont un but à remonter. Elles savent qu'elles ont les capacités, elles ont réussi à le faire pendant 80 minutes à Lyon. Donc oui, tout est possible.
Maxime Rignoux, je vais vous mettre un petit peu à contribution. Le match Toulouse-Marseille a débuté à 19h. Quel est le score actuellement? Allez-y, je crois que c'est 1-0 pour l'Olympique de Marseille.
Non, il y a eu une égalisation des Toulousains. On joue la 54e minute de jeu. Et Nicole Sain avait égalisé en première mi-temps.
Toulouse et Marseille, égalité un partout à 20h28.
Voilà. Exactement.
Merci en tous les cas de ce résultat. J'espère que vous allez nous donner d'autres nouvelles.
J'interviendrai à tout moment.
Vous êtes aussi pour là. Exactement. Pour ça, voilà. C'est ce que j'ai dit à Hugo. On m'a demandé à Maxime. Il m'a dit oui. Est-ce que tu crois qu'il est capable, etc. J'ai dit oui. Il peut regarder avec son portable. Il peut regarder tout.
Faire, voilà.
Alors, on reste dans le championnat de France de Ligue 1. Je vous rappelle les résultats. Nice bat Lorient sur le score de 3-0. Lens a battu Clermont 1-0. Lille bat Strasbourg 1-0. Vous l'avez vu, eh bien, une équipe de Montpellier qui s'est imposée à Reims sur le score de 2-1. Metz s'est imposé au Havre sur le score d'un but à 0. Rennes s'est imposé à Nantes sur le score de 3-0. Et Monaco s'est imposé à Brest sur le score de 2-0. Paris Saint-Germain-Lyon, c'est dans quelques minutes. Alors justement, on va demander à tous nos consultants de faire une analyse d'abord sur PSG-Lyon. C'est un match qui risque d'être compliqué. Débriefing football avec Océane Daniel, Alain Giresse, Giroud et Maxime Erignou. Océane Daniel, on vous écoute.
Oui, ça va être l'affiche du soir. Un match très serré, ça va être un très bon match entre deux équipes en forme. Le PSG vient de se qualifier en Ligue des Champions, mais il ne faut pas oublier que leur dernier match championnat, c'est un match nul contre Clermont. Ensuite, Lyon, de son côté, il reste sur 5 victoires et 1 nul en 6 matchs de championnat. Ils font une très bonne remontée avec le très bon match de la semaine dernière contre Brest. Je pense que ça va être un très très bon match et j'espère voir un grand match de Kylian Mbappé.
En tous les cas, une équipe, un Paris Saint-Germain-Lyon, c'est un lever de rideau de la finale de la Coupe de France qui aura lieu à Lille, comme chacun sait. Je voudrais avoir l'avis aussi d'Alain Giresse. Alain, bonsoir Alain, ça va ?
Bonsoir, oui, très bien, parfait.
Ça va, vous êtes en forme ?
Oui, mais Jacques, c'est bon, stop, je vais très bien.
Mais comment stop ? Pourquoi vous me demandez ça ? Je peux avoir des nouvelles quand même, non ?
Oui, vous allez rentrer dans les petites subtilités de... Je vous connais.
Mais non, je sais que...
C'est le running gag de Jacques.
Je sais que vous faites footing tous les jours, parce que vous vous préparez pour le 100e anniversaire du stade Jacques Chaban-Delmas. Le 14 mai. Ça, on n'oublie pas cette date. Hein. Voilà.
Mais il y a le 24 avril, il y a le 5 mai avant.
Il y a mercredi 24 avril, c'est vrai. Il y a le 5 mai, où on va jouer le variété contre l'équipe de France des prêtres. C'est du jamais vu. Et il y a surtout le 14 mai, organisé par notre ami Alain Giresse. Mais donc, si on peut parler de choses un peu plus sérieuses, même si tous les matchs qu'on dispute sont sérieux, PSG Lyon, comment vous le voyez ?
Ben, ce match est très intéressant. C'est l'affiche, évidemment. Va être, ben d'abord, ben déjà, c'est une première partie de la finale de la Coupe de France. Mais bon, le Paris Saint-Germain a quand même modifié son équipe. Bon, j'entendais Océane qui nous disait, ben, Kylian ne joue pas. Hein, il n'est pas aligné dans ce début de rencontre. Mais avec toujours pareil, Luis Enrique qui modifie son équipe, notamment dans le championnat, puisque Ils ont une marge d'avance suffisante. Non, ça va être intéressant et Lyon peut avoir l'ambition de faire un résultat dans ces conditions. D'autres l'ont fait. On a évoqué le cas de Clermont. Donc voilà, c'est un match qui va être très intéressant. C'est le match de la soirée
et qui va commencer dans 29 minutes. Giroud, votre avis, une présentation de ce Paris Saint-Germain contre l'Olympique Lyonnais? Bonsoir Guy.
Bonsoir. Écoutez, je vais vous dire que Paris Saint-Germain m'inquiète sur ce sujet pour son respect du championnat de France. Autrefois, il y avait 3 titulaires. Ce soir, il y en aura un peu plus. Bon, d'accord, ils vont en demi-finale de la Coupe d'Europe. Mais faudrait pas qu'ils nous faussent complètement. Déjà, il y a l'aménagement des calendriers qui va poser des problèmes, mais inévitable. Mais là, avec déjà Mbappé, il aime jouer au foot. Vous savez ça, que Mbappé, il aime jouer au foot? Que ce soir, il ne le montre pas, mais doit être furieux. Son objectif, c'est d'être le meilleur buteur de tous les temps, d'être le meilleur passeur de tous les temps, et on lui fait faire peut-être une demi-heure de football, alors qu'il avait le droit d'en faire 1h30. Voilà ce que je pense déjà de ce match, avant de le commencer.
Et on va demander à Maxime Erignou son analyse sur ce Lyon qui se déplace au Parc des Princes contre le Paris Saint-Germain.
Bah c'est
un choc, hein ?
C'est un choc. Alors, malgré qu'il y ait 22 points d'écart entre les deux équipes, ça reste quand même l'une des plus belles affiches de Ligue 1. Tout le monde
depuis toujours,
on va regarder ce match, hein, on se souvient des envolées d'Anthony Lopez au goal, il y a Barcola qui va jouer contre son ancienne équipe qui sera titulaire. Alors je suis pas tout à fait d'accord avec Giroud, hein, le PSG fait tourner, il se donne le droit de faire tourner, ils sont en demi-finale de la Ligue des Champions. Je pense que le match de ce soir est un peu moins important pour eux aujourd'hui, ils sont quasiment sûrs d'être champions, ils payent très cher leurs joueurs pour avoir une profondeur de banc et pour pouvoir faire tourner pour arriver le plus en forme possible pour cette demi-finale. Donc oui, ça peut fausser un petit peu la fin du championnat, surtout contre des équipes qui jouent le maintien, on l'a vu contre Clermont par exemple. Mais aujourd'hui, le PSG affiche une équipe digne presque de Ligue des Champions, avec quand même Colomoigny, Ramos, Barcola, Vitinha sera titulaire, Zaïre Emery, Asensio. Voilà, il y a quand même une belle équipe ce soir.
Alors parmi les matchs on a envie de revenir en tous les cas avec notre dream team des consultants Océane Daniel, Alain Giresse, Giroud et Maxime Erignou, je voudrais qu'on parle de Monaco qui s'est imposé tout à l'heure à Brest sur le score de 2-0. Et très honnêtement, quand on regarde, je veux dire, le déroulement du match, il n'y a rien à dire, Océane Daniel.
Non, il n'y a rien à dire. C'était le gros match de cette 30e journée, le deuxième contre le troisième. Et il n'y a pas eu photo. Monaco a été clairement au-dessus. Ils arrivent à marquer sur un magnifique but de Zakaria. Brest dit qu'il y a faute avant. Moi, si je peux donner mon avis, je pense qu'il n'y a pas faute. Donc, il y a but.
Non, mais donnez votre avis.
Je donne mon avis.
Attendez,
pour
vous
moi,
êtes là, vous êtes là pour ça.
Il n'y a pas faute pour moi.
Bon, il n'y a pas faute, d'accord.
Donc, ça a été très bien arbitré. Après, Brest essaie de revenir juste avant la mi-temps. Bon, ils n'y arrivent toujours pas. Monaco arrive directement en seconde mi-temps à mettre un but avec Minamino. Directement au bout de la 5 minutes de jeu de la seconde mi-temps. Et malgré les deux cartons rouges pour Monaco, le score en reste là. C'est la très bonne opération du week-end pour la SM qui prend la deuxième place du championnat à 5 journées de la fin.
En tous les cas, une équipe de Brest qui a été battue, allez, on va le dire, logiquement par Monaco. Alain Giresse, votre commentaire sur le match ?
Oui, elle est régulière, effectivement. Là, il y a rien à dire. Ce qui me dérange par rapport justement à cette équipe de Brest, c'est qu'elle, à cette fin de saison, elle maîtrise pas ses émotions. C'est-à-dire, on l'a déjà vu à Lyon, dans un match où ils menaient 3-1, un petit peu, ils ont perdu le fil de la rencontre. Et aujourd'hui, un petit peu encore trop de nervosité. Alors que, leur parcours jusqu'à présent devrait au contraire leur donner une forme de sérénité, de bien-être, de jouer, de faire des résultats. Et là, je sais pas, ils sont et c'est nerveux. Ils sont moins, comment dirais-je, ils posent moins le jeu, moins à la maîtrise. Bon, c'est vrai que sur le plan offensif notamment, il leur manque quand même des joueurs qui leur permettraient de faire la différence. Donc voilà, c'est regrettable et il faut pas que tout d'un coup ils gâchent cette fin de saison à cause de, je sais pas, un objectif à tout prix qu'ils veulent atteindre. Leur objectif est déjà atteint. C'est sûr qu'ils seront européens. Donc voilà. C'est regrettable parce que vraiment il ne faudrait pas qu'ils gâchent cette saison par justement toutes ces attitudes qui ne correspondent pas à une équipe qui joue le haut de tableau.
On débrief bien sûr sur le match Monaco-Brest, 2-0 pour les Monégasques. C'était cet après-midi. Giroud, votre avis ?
Oh ben, parler après Alain Giresse pour le jugement de l'attitude d'une équipe.
Non mais attendez, on va changer l'ordre. Alors on va d'abord vous faire passer, mais c'est bien après je vais passer Giroud, ou je vais passer Alain. Débrouillez-vous.
Vous me ferez parler le premier, comme ça il saura dire autre chose.
D'accord. J'ai compris.
On est d'accord que Brest n'arrive plus à donner ses merveilleuses contre-attaques maîtrisées. Et que, il subit un peu la loi quand il y a des plus forts, et c'était le cas aujourd'hui.
En tous les cas, une équipe, je le répète, de Monaco qui s'est imposée à Brest sur le score 2-0, c'est logique, il n'y a rien à dire. On est un peu déçus parce que Brest, c'est vrai, on s'était un petit peu habitué à cette équipe de Brest qui obtenait des résultats vraiment exceptionnel, mais là, c'est deux grandes équipes qui s'affrontent, Maxime et Rignoux.
Oui, c'est seulement la deuxième défaite de Brest à domicile.
C'est pas grave, c'est une
performance. Le Paris Saint-Germain s'était imposé 3-2 au mois d'octobre. C'était la seule défaite de Brest à domicile. Voilà, Monaco a fait parler son expérience sur ce genre de match, plus habitué à ces chocs, notamment dans le sprint final pour aller chercher la Ligue des Champions. Après, rien n'est perdu pour Brest. Ils sont à 6 points de Nice qui est 5e. Voilà, il va falloir aller chercher encore quelques points pour avoir cette qualification directe en Ligue des Champions, parce que je pense que s'il passe par les barrages avec la 4e place, il risque de pas voir les phases de poule l'année prochaine.
En tous les cas, ça sera certainement compliqué si jamais Brest n'est pas qualifié directement.
Exactement.
Je rappelle que les deux premiers sont qualifiés directement pour la Ligue des Champions et le troisième ferait le tour préliminaire. Alors qu'il faut encore faire des calculs, peut-être qu'il y aura les trois premiers qui seront qualifiés pour la phase finale de ce qu'on appelle la Ligue des Champions, et un quatrième qui fait le tour préliminaire.
Ça se prend la tête, là.
Voilà, ça se prend la tête. C'est pas sûr encore.
On se posera quand la Ligue des Champions arrivera.
Non, il y en a deux sûrs, peut-être un troisième, et peut-être un quatrième qui ferait le tour éliminatoire de la Ligue des Champions.
Et peut-être un cinquième. Si Marseille gagne l'Europa League, ils sont qualifiés directement en Ligue des Champions.
Oui, non, c'est bon. Pour moi, c'est un peu compliqué, donc on va prendre notre temps. On va analyser différemment, mais on va pas annoncer des choses qu'on connaît pas encore.
Étape par étape, Jacques.
Comment ?
On va y aller étape par étape.
Étape par étape. Donc, pour le moment, oui, Guy, allez-y.
Oui, je dis, voilà encore une belle démonstration de l'UEFA qui méthodiquement et de la FIFA détruisent la possibilité pour les clubs de faire des bons championnats.
Non, mais est-ce que vous vous rendez compte
en piquant des dates sans arrêt. Et là, le nombre de dates piquées par l'UEFA l'année prochaine avec ces 6 compétitions, c'est faramineux. Je ne sais pas si on arrivera à jouer le championnat.
En tous les cas, moi, ce qui m'inquiète surtout, c'est que il y a quelques années, sans jouer les anciens combattants, on avait deux clubs qui étaient qualifiés pour la Ligue des Champions. On avait un troisième qui disputait des matchs éliminatoires pour être qualifié pour la phase finale de la Ligue des Champions. Et maintenant, peut-être, mais c'est pas sûr, eh bien, on pourrait avoir 4 clubs en Ligue des Champions qualifiés directement et un 5e qui ferait le tour préliminaire. C'est-à-dire que l'élitisme, pour le moment, alors c'est à cause sans doute des décisions de l'UEFA et à plus forte raison de la FIFA, mais je trouve très honnêtement que ça fait pas sérieux si vous avez 4 clubs français qualifiés dans le tour direct de la Ligue des Champions. Franchement, on parle, il paraît qu'en Italie, il y en aurait 5. C'est déjà acté, c'est déjà acquis. Enfin, écoutez que ça, on en reparlera. Bon, alors il y a un match, moi, qui m'a beaucoup plu, que j'ai regardé cet après-midi aussi. C'est le Football Club de Metz, qui s'est imposé au Havre sur le score d'un but à zéro. Enfin, le Football Club de Metz, depuis je ne sais pas combien de temps, sort de la zone de relégation et de barragiste. Et Metz, avec son maillot Grenat, Croix de Lorraine, vous le savez, a une petite chance de rester en Ligue 1 la saison prochaine. Océane Daniel, votre commentaire. Vous l'avez vu,
oui,
ce match,
hein? Oui, bien sûr, je l'ai vu, Jacques. C'est mon boulot, je suis obligée de le regarder. Oui. Et je prends du plaisir à le regarder, en plus. Donc oui, c'était un match très serré entre deux équipes qui veulent sortir de la zone de relégation. Metz a pris les 3 points grâce à Miko Tadzi, encore une fois. Il est sur 3 buts en 2 matchs. Donc ils sortent de la zone de relégation. Ils sont 15e actuellement à 2 points de Nantes. Ça va être plus compliqué pour Le Havre sur cette fin de championnat. Ils ont des gros rendez-vous. Ils vont au PSG, ensuite ils reçoivent Strasbourg, et ils vont à Nice et ils reçoivent Marseille. Donc sur leurs 4 derniers matchs, ils ont des gros gros rendez-vous. Donc à eux de répondre présent dès leur prochain déplacement au Parc des Princes.
Elle joue bien cette équipe de Metz,
hein? Oui, oui, oui.
Elle joue pas mal, hein?
Bah Metz, ils ont un très bon numéro 9, Miko Tadzi, il revient au club et il met des buts et oui, c'est assez impressionnant.
En tous les cas, une équipe de Metz qui a réalisé un formidable résultat en allant s'imposer au Havre sur le score d'un but à zéro. Giroud, on vous passe en deuxième maintenant. Oui, après, on passera à l'un en troisième. Voilà.
J'écoute attentivement tout ce que vous dites les uns et les autres.
Bon, là, vous passez en deuxième.
Vous venez de donner un magnifique exemple. C'est pas un match difficile qui est prévu là, au Paris Saint-Germain. C'est contre le Paris Saint-Germain B. Alors, en ce moment, le championnat est en train de changer.
Non, mais je voudrais qu'on parle, si ça vous dérange pas, de cette victoire de Metz au Havre.
Oui, d'accord. Mais on a parlé aussi du match contre Paris Saint-Germain.
Oui, allez-y. Alors, Metz qui gagne au Havre, 1-0. Vous aimez bien ce club de Metz?
Oui, bien sûr. J'aime bien le Havre aussi, qui est le premier club français à avoir joué en France, en professionnel. Enfin, pas en professionnel, mais au football. Premier club au 19e siècle.
C'est exact.
Voilà.
C'est le club doyen, 1894, je crois.
Voilà, de mémoire. Très bien, bravo. Et je les aime bien, mais Metz, j'aime un peu plus parce que j'ai un moment été soldat, comme on dit, tout près de Metz, en Allemagne, et que je venais voir les matchs à Metz. Et puis j'étais très ami de Monsieur Molinari.
Carlos Molinari.
Je le suis toujours.
Résident emblématique de Metz. Voilà.
Voilà. Et donc, on va pas pleurer, mais on est descendu à 18, c'est peut-être dommage.
Alain Giresse, votre avis sur cette équipe de Metz?
Belle opération.
Bien sûr.
Fatalement, je crois que là, ils sont dans une belle dynamique. Je crois qu'il doit y avoir vraiment un état d'esprit là qui leur donne la possibilité de se maintenir. Il y a quelques temps, on n'aurait pas joué beaucoup sur eux. Et là, ils sont en dehors de la place de barragiste aussi. Donc, pourquoi pas. En tout cas, si c'est réalisé, ils auront fait, d'une certaine manière, ils auront fait un exploit que d'arriver à se maintenir cette saison.
Maxime Hérignou, votre avis, mais d'abord donnez-moi des nouvelles de Toulouse-Marseille, c'est en ce moment.
Alors, Toulouse-Marseille, il y a toujours un partout. D'accord. Et on joue là à 68e minute.
Parfait, alors donnez-moi votre avis maintenant sur ce match où Metz s'impose au Havre 1-0.
Comme l'a dit chacun, Miko Tadzé qui a mis un doublé la semaine dernière contre Lens et qui a offert la victoire aux Messins face à Lens, et là il récidive encore une fois avec un super but aujourd'hui au Havre. Pour moi, c'est l'une des plus belles opérations, hein, comme Alain l'a dit. Ils sortent de la zone rouge.
Vous êtes d'accord avec Alain Giresse?
Exactement, mais d'accord. Qui n'est pas d'accord
et
avec Alain Giresse?
Et Giroud,
oui, exactement.
Et Océane Daniel. Ah, d'accord.
Et bientôt Jean-Claude Perrin qui nous a rejoint.
Il viendra, il est arrivé à 19h pour intervenir à 20h50. Il n'est pas en retard, hein, je vous le dis tout de suite, hein, il n'est pas en retard. Hein.
Je pense qu'il va nous parler du record de Duplantis.
Normalement. S'il n'a pas oublié. Normalement.
Ouais, il est prêt.
Normalement. Je crois qu'il est prêt. Il a je ne sais pas combien de dossiers, il a fait je ne sais pas combien de photocopies, il a téléphoné à tout le monde et normalement il devrait faire une,
une apparition brillantissime.
Dans quelques minutes.
Dans quelques minutes, sur justement Duplantis qui a battu une nouvelle fois le record du monde avec 6m24. Bon, on vous terminait, ça vous dérange pas, Maxime Irini, voilà, sur Metz qui gagne au Havre 1-0.
Metz, avec cette victoire, se met à 3 points de la zone rouge. Hein, Lorient qui, du coup, repasse 17e. Et les Normands, ils sont dans une dynamique un peu négative. Hein. On louait le bon travail de toute l'équipe, notamment de Mathieu Bonnemer qui a fait des bons recrutements, etc. et ils ont fait une bonne première partie de saison. Et là, ils sont un peu en chute libre et je crains le pire pour la suite de la saison.
Le studio des légendes en direct 20h-21h sur Europe 1 avec Martin Lange, avec Serge Blanco, Pauline Gamère, Océane Daniel, Alain Giresse, Guy Roux, Maxime Hérignoux, Jean-Claude Perrin. Dans quelques secondes, il a dormi une demi-heure, il est allé se doucher et il est revenu. Ici à Europe 1, on l'accueille, mais vraiment d'une manière exceptionnelle. Réalisation Benoît Levionnois et collaboration Hugo Levé qui, tenez-vous bien, chers auditeurs et chères auditrices, il est arrivé avec son blouson rouge. On a cru qu'on allait devenir aveugle quand on a regardé on a pris un choc aux yeux avec la couleur, mais un vrai rouge. Hein. Il a un blouson rouge, il est immétable. Là aussi, on peut pas lui piquer. Hein. Je vous dis, il peut le laisser dans toutes les rédactions du monde. On va pas lui piquer. À tout de suite.
Bonjour, c'est Thomas Hill.
Culture Média.
On va vivre une semaine exceptionnelle dans Culture Média avec les visites de Virginie Ledoyen, André Dussolier, Thierry Lhermitte, le grand réalisateur Jean-Marie Poiré, mais aussi Cœur de Pirate et David Hallyday qui chanteront en live dans nos studios.
Culture Média, présenté par Thomas Hill.
Alors rendez-vous demain de 9h30 à 11h sur Europe 1.
Comme vous, chez Orange, on aime bien quand...
Ah ouais, ça change.
Mais on aime bien aussi quand on nous dit... Oh, mais t'as pas changé. Alors, heureusement, la série spéciale mobile 120 Go 5G à 19,99€ par mois, son prix, lui, n'est pas prêt de changer.
Ok, ça change tout.
Orange est là.
Offre sans engagement réservée aux clients Internet, valable pour les nouvelles souscriptions. Conditions en boutique et sur orange.fr. 5G uniquement aux zones déployées avec terminal compatible. Couverture sur réseau.orange.fr.
Europe 1.
On est sur le toit du monde, on est sur le toit de l'Olympe.
20h, 21h.
Le studio des légendes.
C'est vrai que j'ai fait une ligne droite époustouflante.
C'est une histoire qui est en train de se raconter, elle n'est pas terminée.
Même si je suis un grand joueur de foot, comme les mômes me le disent, pour ça je suis fier, mais j'ai pas envie de me le dire.
Jacques Vendroux.
Débriefing donc sur cette nouvelle journée du championnat de France de Ligue 1, on a parlé de PSG Lyon qui va débuter dans 14 minutes au Parc des Princes. On a parlé de Monaco qui s'est imposé à Brest 2-0. On a évoqué aussi le Football Club de Metz qui s'est imposé au Havre 1-0. Et là, on va parler du derby, le derby breton, entre guillemets. On va schématiser. Rennes qui s'impose à Nantes 3-0. Et là, on va commencer par Giroud, vous m'écoutez ?
Oui,
Vous êtes en premier.
Ah oui,
merci. Là, vous avez pris du grade.
Mais,
hein.
Mais vous me posez une colle parce que j'ai vu beaucoup de matchs, mais pas celui-là.
Bon, mais Rennes qui s'impose à Nantes,
oui,
3-0.
Bien sûr.
Bon, c'est pas.
Nantes avait.
C'est une surprise pour vous ?
Oui, parce que Rennes est très irrégulier. Mais quand Rennes est bon, il est bon. Hein.
Oui, c'est
parce
vrai.
Parce que c'est une des meilleures équipes du championnat, peut-être des 3-4 meilleures. Et puis, de temps en temps, ils ont des trous, parce que sans doute leur effectif est un peu insuffisant en nombre. Et il suffit d'un ou deux absents importants pour changer le destin d'un match. Okay. Mais Nantes avait commencé une remontée. Et puis là, elle a l'air de nouveau de retomber dans ses difficultés. Quand c'est contre une bonne équipe, ça se paye cher.
Et on pense à Antoine Comboiré, bien sûr, qui doit être très déçu à l'occasion de cette défaite contre le Stade Rennais sur le score de 3-0. Alain Giresse, vous êtes en deuxième.
Oui.
Non, que j'ai vu maintenant qu'il fallait faire un classement. Voilà, il y en a qui sont susceptibles. Giroud est susceptible, il ne veut plus passer après vous, mais vous ne voulez pas passer après lui. Enfin, voilà, c'est pas simple votre histoire. Hein. Moi, je vous le dis. Heureusement qu'il y a les deux jeunes qui s'en foutent complètement, qui passent en premier, en troisième ou en quatrième. Bon, Alain Giresse, allez-y.
Nantes est tombé sur plus fort qu'eux.
Voilà.
C'est évident. Et comme l'a dit si bien Guy, effectivement, quand terrain est bon, ils sont très bons. Et c'était le cas. Et voilà, Nantes n'a pas pu lutter et a été battu dans tous les compartiments. Alors, on pouvait s'attendre à un renouveau du FC Nantes qui avait été lancé la semaine dernière. Non, c'est pas le cas. Ils vont encore falloir qu'ils bataillent et Rennes peut enclencher un peu, encore une série comme ils ont eu l'habitude déjà d'en réaliser pour se retrouver dans les places européennes. Mais voilà, le match a été vite fait et bien fait par les Rennais.
Maxime Hérignoux, d'abord des nouvelles du match Toulouse-Marseille, toujours un partout ?
Toujours un partout, Jacques.
Et il reste combien de temps à jouer ?
Il reste un bon quart d'heure.
Un bon petit quart d'heure. Voilà, j'espère qu'on pourra vous donner le résultat avant la fin de cette émission. En tous les cas, pour le moment, Toulouse et Marseille sont à égalité, un partout, un match qui a débuté à 19h. Maxime Hérignoux, alors parlez-moi de ce match évidemment important, Rennes qui s'impose à Nantes sur le score de 3-0. Bah, vous êtes surpris ? Vous êtes étonné ?
Étonné, non, parce que voilà, Rennes a l'effectif pour gagner à Nantes. Après, Rennes reste.
On a l'impression que Rennes, c'est tout ou rien.
Oui, bah, il reste sur trois défaites consécutives, donc il fallait se remettre un petit peu en avant. On le disait vendredi, hein, si Rennes veut accrocher potentiellement une place pour la Coupe d'Europe, il va falloir gagner à Nantes. Bah, c'est chose faite. Il y a eu un grand Kalimuendo, les frères Doué qui font part de leur talent à chaque fois, à chaque match de Rennes. On a eu aussi un Mandanda qui à 2-0 a été sollicité. Il a eu un match plutôt tranquille, mais lorsque Rennes a gagné 2-0, il a eu quelques arrêts décisifs à faire. Et voilà, Nantes, ça, c'est un peu plus compliqué pour Nantes. Il leur reste 4 matchs contre des adversaires qui ont...
Contre qui ?
Alors, ils vont à Montpellier, qui joue aussi le maintien. Ils vont à Brest, qui joue la Ligue des Champions. Ils reçoivent Lille, qui joue aussi la Ligue des Champions. Ah. Et ils vont à Monaco, qui joue aussi la Ligue des Champions. Donc, 4 matchs hyper important pour les Nantais, ça va être compliqué, même s'ils ont encore un petit peu de voilà, ils sont un peu loin de la zone rouge, voilà, ils sont à quelques points de la zone rouge.
En tous les cas, c'était match en tous les cas passionnant, en tous les cas, pour le moment, on a passé un super week-end de football et même de rugby avec les féminines, et je voudrais qu'on demande à Océane Daniel aussi qu'elle nous parle de cette victoire de Rennes à Nantes. Elle est restée aussi, comme Serge Blanco, 8 heures devant son poste de télévision. Elle a regardé tous les matchs, car elle savait qu'elle devait intervenir vendredi et intervenir dimanche. Voilà. Allez, Océane.
Exactement.
Vous avez plus de vie de famille à cause de nous.
C'est pas grave, Jacques.
On va dire
vous
ça
en
comme ça.
Pas.
Voilà.
Oui, c'est Rennes restée sur 3 défaites de suite. Donc, cette victoire leur fait beaucoup de bien. Elle leur permet de remonter à la 7e place du classement et de permettre de croire encore à l'Europe. La victoire de Rennes s'est dessinée en deuxième période avec la réalisation de Kalimuendo, Bourigeau et Goury. De son côté, Nantes n'y arrive plus à domicile. C'est leur 8e défaite de suite. Ils sont 14e à 3 points du premier relégable. Et leur prochain match est à Montpellier. Donc c'est sûr que leur fin de saison s'annonce très compliquée. On souhaite bon courage à Antoine Comboiret sur cette fin de saison.
Et on va parler de Lille. Lille qui bat le Racing Club de Strasbourg sur le score d'un but à 0. Petite victoire de Lille, je le reconnais. Mais victoire tout à fait logique. En tous les cas, c'est mon avis, Giroud. Et vous ?
Et Strasbourg, ça pas progressé. Strasbourg a bien progressé. Le travail de son entraîneur est appréciable. Il avait à supporter des espèces de petits Brésiliens venus d'Angleterre qu'on lui imposait un peu comme s'ils allaient tenir la buvette. Et il en a fait des joueurs... Enfin, il a fait une équipe. Et donc, là, aujourd'hui... C'est un peu une défaite. Elles sont toutes regrettables, mais enfin, à peine méritées.
Alain Giresse ?
Oui, mais Lille, vraiment, ils sont dans une belle dynamique. Bon, ils sont passés très près d'une qualification en Coupe d'Europe. Et là, ils assurent, effectivement, après match Coupe d'Europe, c'est toujours pas facile de se relancer dans le championnat. Ils ont fait l'essentiel. Voilà, ils ont un effectif qui permet, effectivement, d'avoir toujours une équipe qui soit assez compétitive à chaque rencontre. Voilà, je pense que Lille est là. Ils sont bien calés et je pense qu'ils vont assurer déjà cette position. Et peut-être encore mieux dans les cas de match qui restent.
Alain Giresse vient de nous donner son commentaire sur cette rencontre entre Lille qui a battu le Racing Club de Strasbourg 1-0. Maxime Hérignoux.
Bah, ils ont fait le plus dur, hein. Lille, c'est de marquer au bout de la 12e minute de jeu par l'inévitable Jonathan David qui, en 2024,
est étincelant.
Il a connu une première partie de saison compliquée parce qu'il devait peut-être partir l'été dernier. Donc voilà, et là, il a remis Lille sur le bon pied. Et bah, pour moi, c'est la plus belle équipe de Ligue 1 en ce moment. Hein. Ils ont l'effet, ils ont une profondeur de banc, ils peuvent faire tourner. Ils ont failli se qualifier pour les deux demi-finales de la Conférence League contre Aston Villa. Voilà, ils ont fait le nécessaire. Strasbourg aurait pu revenir en fin de match. Ils ont loupé quelques occasions. Voilà, et c'est une belle victoire de Lille encore.
Océane Daniel.
Oui, c'était un match plutôt équilibré en termes de possession, d'occasion. Lille a réussi à marquer très tôt dans le quart d'heure de jeu, comme l'a dit Maxime, grâce à Jonathan David, qui a 17 buts, qui est le deuxième meilleur buteur de Ligue 1, derrière un certain Kylian Mbappé, avec ses 24 réalisations. Ensuite, derrière, ils ont su gérer le match, après le même, malgré leur fatigue du match de jeudi. Strasbourg est passé à la 13e place après la victoire de Montpellier. Ils étaient pourtant sur une bonne dynamique. Sur leurs 4 derniers matchs, ils étaient en 3 victoires et un match nul. Donc pour eux, je ne m'inquiète pas trop pour eux sur cette fin de saison. Ils sont à la 13e place et je pense qu'ils seront en Ligue 1 l'année prochaine.
Et comme tous les dimanches soirs, c'est un événement important. Il y a Jean-Claude Perrin dans quelques secondes. Il est arrivé, je le répète, non pas à 18h, mais il est arrivé à 17h. Donc il a eu le temps de faire toutes les photocopies qu'il voulait, de prendre de téléphoner partout, etc. Enfin, il est chez lui à Europe 1 et c'est Monsieur Athlétisme. Et donc on va lui faire parler
du record
du monde. Enfin, c'est un champion extraordinaire, ce dénommé Duplantis. Bon, on va parler maintenant des résultats du foot étranger avec Hugo Levé. Allez,
On commence en Angleterre, Jacques, parce
que vous voulez.
Il y avait les demi-finales de la Coupe.
Non, vous faites ce que vous voulez. Vous vivez comme vous l'entendez. Mais on va demander à Maxime Hérignoux d'abord le point sur Toulouse-Marseille, si ça vous dérange pas.
Yes.
C'est l'actu quand même. Hein.
C'est l'actu. Toujours un partout. On joue la 81e minute de jeu.
D'accord. Allez, les résultats du foot étranger. Hugo Levé.
Alors en Angleterre, Jacques, c'était les demi-finales de la Coupe. Donc Manchester City a éliminé Chelsea hier 1-0. Et pour l'autre demi-finale, Manchester United s'est fait très très peur contre le club de deuxième division Coventry City. Score final, 3 buts partout à la fin du temps réglementaire. Les Mancuniens se sont finalement imposés au tir au but. Rendez-vous le 25 mai pour la finale de la Cup à Wembley. Et puis sinon, en championnat, Arsenal respire. Victoire 2-0 des Gunners hier contre Wolverhampton. Victoire également d'Everton cet après-midi. 2-0 face à Nottingham Forest. Et puis Liverpool retrouve la victoire. Succès 3-1 sur la pelouse de Fulham.
Un mot sur l'Italie, si ça vous dérange pas. Alors, en Serie A,
la Juve a fait match nul vendredi soir, 2-2 face à Cagliari. La Lazio Rome s'en sort, 1-0 sur la pelouse de Gênes. Mais surtout, Jacques, l'immense rendez-vous de cette 33e journée, c'est évidemment le derby della Madonnina entre le Milan AC et l'Inter. Match importantissime, puisqu'en cas de victoire, l'Inter sera sacré champion. Et en plus, face à son éternel rival, coup d'envoi manquable demain à 20h45.
Et l'Allemagne?
Alors, en Bundesliga, correction pour l'Union Berlin à domicile face au Bayern de Munich. Défaite 5-1. Le jeune français Mathis Tell a marqué pour les Bavarois. Sinon, Stuttgart, 3e du championnat, est tombé à Brême. 2-1. Victoire de Francfort 3-1 contre Augsbourg. Et puis le champion, le Bayer Leverkusen, était en passe de connaître sa première défaite de la saison. Mené 1-0 au bout de 90 minutes, le Bayer a finalement égalisé dans les arrêts de jeu. Il porte sa série d'invincibilité à 45 matchs.
Et on termine avec l'Espagne.
Alors en Liga, énorme performance de Gérone qui s'est imposé 4-1 contre Cadix. Le club catalan consolide sa 3e place et sera assuré de disputer une Coupe d'Europe la saison prochaine. Sinon, victoire du Betis Séville 2-1 sur la pelouse de Valence. Et puis le match que tout le monde attend, le Classico entre le Real Madrid et le FC Barcelone. C'est dans quelques minutes à 21h. Les Barcelonais ont l'occasion de finir leur semaine sur une note positive après l'élimination en Ligue des Champions face au PSG.
Et chose promise, chose du 6m24, c'est le nouveau record du monde du saut à la perche, encore amélioré par le Suédois Armand Duplantis. Jean-Claude Perrin, vous êtes avec nous, votre commentaire.
Prodigieux.
Voilà.
Et surtout, ce qui est prodigieux, c'est la façon dont il l'a faite. Son hiver avait été moyen, il est champion du monde en salle à Glasgow, on l'avait quitté sur des sauts tout à fait moyens, et là, hier, en Chine, à Zhongying, eh bien, ma foi, il a été éblouissant. En 4 barres...
Je vous coupe 30 secondes, Jean-Claude Perrin. Toulouse mène devant Marseille sur le score de 2-1. C'est important. Allez-y.
C'est très très important de signaler en direct.
Voilà, exactement. Voilà. Allez-y,
Jean-Claude. Parce que votre émission n'était pas mauvaise, donc il faut mieux donner les résultats en direct.
Voilà, exactement. Bien, et là, elle est meilleure. D'accord.
Oui,
là, elle est
nettement meilleure depuis qu'ils ont perdu. Je parlais de Duplantis, qui est véritablement prodigieux. Et maintenant, nous sommes à 104 jours des qualifications des Jeux Olympiques.
De l'épreuve de la perche, attention. Hein.
Oui, il ne fera que la perche. Et ma foi...
Non, mais la compétition de la perche, c'est dans combien de temps? C'est dans
104 jours.
104 jours, voilà, c'est ça que je voulais dire. Voilà.
Oui, on se demande comment, par quel bout il va prendre la façon d'être champion olympique.
Il est le grand favori.
Il est le grand favori, à 1000 contre 1. Il est véritablement exceptionnel. la seule chose qui puisse lui arriver pour ne pas être champion olympique, Jacques, on le sait, c'est de glisser, de tomber dans les escaliers.
Le rappel, le studio des légendes en direct, 20h-21h, avec Martin Lange, Serge Blanco, Pauline Gamère, Océane Daniel, Alain Girès, Giroud, Maxime Hérignoux, Jean-Claude Perrin. Réalisation Benoît Levionnois, collaboration Hugo Levé, à suivre sur Europe 1. Et Joe, votre émission musicale présentée par Joe Hume et mon ami Pascal Pro, c'est deux rendez-vous par jour sur Europe 1. D'abord avec l'heure des pros de 9h à 9h30, codiffusion avec CNews évidemment. Et ensuite de 11h à 13h pour vous donner la parole. Parce que comme le dit Pascal, le plus important, c'est vous, les auditeurs. Pour participer, appelez le 01 80 20 39 21, numéro non surtaxé. Europe 1 vous rappellera. Bonne soirée à l'écoute d'Europe 1. Vous le savez, chers auditeurs, chères auditrices, eh bien, Europe 1, c'est une très, très, très grande famille. À bientôt.
Yeah, yeah, wow, merci, ma maman.